Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de Céline Aubedeau, qui sera là tout à l'heure, que je tire de son livre qui paraît aux éditions Kawa, du masculin au féminin. Céline est née petit garçon. Elle s'appelait Christophe. Mais Christophe se sentait femme. Il l'est devenu à l'âge de 53 ans. Simon Veil m'a aidé à écrire son histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pour autant que je me souvienne, c'est vers l'âge de 5-6 ans que le petit garçon que je suis, et qui s'appelle Christophe, ressent les premiers troubles. L'impression que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Qu'on m'a rangé dans la catégorie des garçons, alors que la catégorie des filles me conviendrait mieux. Mais à 6 ans, je me dis que ressentir ça, ça n'est pas normal. Que je dois être le seul sur la planète à vivre la même chose. Et donc que je dois le cacher. Je ne serai jamais une fille. La baguette magique n'existe pas. Arrête d'y penser. Arrête ! Pense à autre chose. Tiens, le sport. Hein ? Pourquoi pas le sport ? Alors je me jette dans la natation, l'athlétisme, le volley-ball, le ski, le tennis de table. Tous les soirs, je suis occupé. Ne pas y penser. Surtout ne pas y penser. Assez vite, les filles m'intéressent et je leur plais. Je ne peux pas être une fille, quoi de mieux que de les côtoyer. On habite un tout petit village, en Alsace, près de la frontière allemande. Et mes parents, qui n'ont pas trop de sous, récoltent des vêtements partout. Il y en a des sacs et des sacs pleins le garage. Une mine d'or que j'explore la nuit. J'y trouve des robes et des sous-vêtements. Et je les ramène dans ma chambre. Et je les mets. Et je les cache. Vers mes 12 ans, je me trouve un prénom de fille, Céline. À cause de la chanson du Gaufret, bien sûr.
Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari.
C'est joli, Céline. Ça serait fou qu'un jour on m'appelle Céline.
Ne pleure pas. Tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi.
Nous resterons toujours près de toi.
Me voilà à 18 ans. Je n'en ai encore parlé à personne. Je suis grand, musclé, grâce au sport je suis plutôt pas mal gaulé. Personne ne peut imaginer un seul instant que je veuille être une femme. Et pourtant, ça me hante. Pourquoi je ne suis pas une fille? Je sais pas comment vous expliquer. Tiens, c'est un peu comme une addiction. Comme le tabac ou l'alcool ou la drogue. Mon cerveau ne réclame pas de nicotine. Il me réclame de la féminité. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour combler ce manque, c'est de m'habiller en fille. Je sais, c'est ridicule. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais personne ne doit savoir. En terminale, terminale G2, le bac à bon marché, comme disait Sardou, je fais la connaissance d'Isabelle. C'est pas un top modèle, Isabelle. Mais elle a un charme. Elle me rend fou. Elle me fascine.
Je te préviens, Christophe, moi je suis libertine.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Enfin, quoi qu'il en soit, j'arrive à mes fins. Ça y est, on est ensemble, Isabelle et moi. La première fois, je suis lamentable. La peur de mal faire, elle ne m'en veut pas. Et le soir, comme j'habite au sous-sol chez mes parents, elle vient me rejoindre pour la nuit. Vers mes 20 ans, je rencontre des problèmes de santé, des douleurs aux genoux insupportables.
Vous avez fait trop de sport trop jeune, jeune homme, hein? La course à pied, le marathon, vous savez, c'est très traumatisant, hein, tout ça pour les articulations. Il va falloir vous opérer, des deux genoux.
Et après les genoux, j'ai mal dans le dos et le sternum. Tellement mal qu'il faut m'hospitaliser et me traiter à la morphine. J'y reste un mois. On ne sait pas ce que j'ai.
Bien. Écoutez, il va falloir qu'on explore l'hypothèse d'une maladie génétique, jeune homme. Hein, je vais vous soumettre à ce qu'on appelle un caryotype. C'est une analyse de vos chromosomes. D'accord ?
Il avait raison. Il y a un problème. Un problème sur le chromosome 6. HLA-B27. Autrement dit, j'ai une spondylarthrite ankylosante.
C'est marrant. C'est marrant parce que sur le chromosome 23, eh ben vous êtes XX. En fait, vous êtes une femme.
Elle m'a dit ça en rigolant. Mais moi, en une seconde, je viens d'avoir la réponse à toutes mes questions. Tout s'explique. Et je me moque complètement de la spondylarthrite. Je suis une femme. Sur le moment, je me suis accroché à cette idée. Et plus tard, j'ai fouillé sur Internet. Et j'ai appris que normalement, un homme est XY et une femme XX. Mais qu'il existe des hommes qui sont génétiquement XX et des femmes XY. Et j'ai appris surtout que c'est purement génétique, que ça n'a rien à voir avec la transsexualité. Rien. Me concernant, c'est le hasard en fait. Ça n'explique rien. Mais pendant des années, je me suis accroché à ça. Je suis une femme. La seule conséquence, c'est que je suis stérile ou que je fabrique peu de spermatozoïdes. Mais ça n'empêche pas que vers mes 26 ans, Isabelle tombe enceinte. Une grossesse difficile, un accouchement à risque. Mais je suis là, je tiens la main d'Isabelle et arrive une petite fille, Marie, 1 kg. Elle tient dans le creux de la main. Il faut quelques semaines pour qu'elle atteigne 2,5 kg. Et la voilà à la maison. Une famille. Pas longtemps. Un jour, Isabelle me dit
« Écoute, Christophe, ton truc de fille, là, faut que tu te soignes. Ou tu te soignes ou on ne sait pas. Ou tu vas voir un psy, ou je m'en vais. Je te laisse pas le choix. »
Et donc, bien obligé, je prends rendez-vous au centre psychiatrique de Roufac, où je suis reçu par une jeune psychologue. C'est la première fois que je parle de mon problème.
Vous savez, ça pèse beaucoup. Oui, enfin, beaucoup. Je souffre beaucoup. Et plus je résiste, plus c'est douloureux. Je subis tout le temps.
Son diagnostic, je suis déviant sexuel.
Je peux vous proposer un protocole médicamenteux, expérimental.
Je refuse. Je suis une femme, qu'est-ce que les médicaments peuvent y changer? Alors après 12 ans de vie commune, Isabelle et moi, nous nous séparons. À partir de là, je n'ai qu'un rêve, rencontrer une femme qui me prendra comme je suis. Il me faut 6 ans pour la trouver. En 1996, j'ai 32 ans et je tombe sur Jeannette, la serveuse d'un restaurant où nous allons manger après les entraînements de volley-ball. Très élégante, plus âgée que moi, beaucoup plus, 14 ans de plus, mais ça m'est complètement égal. Au premier rendez-vous, on s'embrasse, au second, on se pelote, et au troisième, je lui raconte tout.
Au fond de moi, je me sens femme, en fait. Je voulais que tu le saches parce que... Ben, si on doit construire quelque chose ensemble, je veux pas me cacher, tu comprends?
Et elle comprend. Incroyable! Un jour, j'arrive avec une jupe et un chemisier, pas de problème. Et très vite, je m'installe chez elle. Elle a une fille de 17 ans. Ça se passe bien. On retape sa maison natale, à flanc de montagne, au pied des Vosges. J'adore ça. Bricoler, je fais tous les métiers. Maçon, électricien, plombier. Et puis un jour, on se marie. Et un autre jour, elle me fait un cadeau d'anniversaire extraordinaire.
Tiens, Christophe, c'est pour toi. Oh! Une chemise de nuit.
Une chemise de nuit en satin blanc et un peignoir. Je suis aux anges. Je vais pouvoir m'habiller comme je veux dans notre intimité. Dix ans plus tard, je suis toujours avec Jeannette et mon patron me propose de diriger une usine en Chine, à Shanghai. 650 ouvriers, 15 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça ne se refuse pas. J'ai 42 ans, Jeannette toujours 14 de plus, et nous voilà donc à Shanghai, dans une grande villa, 4 chambres, 4 salles de bain, juste en face d'un golf, femme de ménage, chauffeur privé. On passe d'un petit village de 400 habitants à une ville de 25 millions. Je ne vous l'ai pas dit, mais juste avant de partir pour Shanghai, on m'a trouvé un problème au niveau du cou. Monsieur, vous avez des nodules sur la thyroïde. Vous voyez là, les deux côtés, hein, ici et là. Il faut absolument faire des examens complémentaires pour s'assurer que ça n'est pas cancéreux. Je n'ai pas pris le temps. Je partais le lendemain à Shanghai. Mais 2 ans plus tard, en 2008, ça me revient en pleine figure. Je me retrouve avec un goitre sur tout le côté droit du cou. Et donc je rentre en France. Heureusement, ça n'est pas trop grave. C'est un nodule chaud, comme ils disent. Moins de risque de cancer qu'avec un nodule froid. Mais il faut m'opérer. Je me fais opérer à Colmar et on m'enlève la thyroïde. L'opération se passe bien. Mais la nuit suivante, je fais une complication.
Il fait une hémorragie interne, là. Il faut l'amener d'urgence au bloc.
À ce moment-là, je me dis, je vais mourir. Et je pense à Jeannette qui est toute seule à Shanghai. Et vous savez ce que je me dis sur le brancard qui m'amène au bloc ? Je me dis que je ne serai jamais la femme que je voulais être. Je m'en suis sorti, miraculeusement. On m'a donné une deuxième chance. Et ce jour-là, je décide que dans ma deuxième vie, je serai une femme. En 2010, fermeture de l'usine de Shanghai que je dirige. Nous rentrons en France, pas longtemps. On me propose de diriger une usine à Hanoï, au Vietnam. Et là, changement de décor. Mais Jeannette n'a pas envie d'une nouvelle expatriation. Alors elle reste en France, et je me retrouve tout seul. Très seul. Et pourtant, j'ai une grande maison, une grande piscine. Alors je fume, je bois, je grossis, je déprime, en vérité. Et je pense au suicide, ça réglerait tout. Ou alors je deviens femme. Le 1er janvier 2015, j'ai 51 ans, je décide de ne plus boire une goutte d'alcool et de reprendre le sport. Et surtout quelques mois plus tard, en avril, je vais voir un médecin français qui exerce dans une clinique d'Hanoï.
Docteur, je veux prendre un traitement hormonal. Je veux devenir une femme. Je suis une femme, de toute façon.
Il n'est pas très à l'aise avec ma démarche, ça se voit. Mais il est professionnel. il va m'accompagner. Et je vais voir aussi une psychologue française dans une autre clinique de Hanoï. Moi qui m'étais juré de ne jamais revoir un psy, il ne faut jamais dire jamais. Elle ne me juge pas. Elle ne me parle pas de maladie. Je lui dois beaucoup. Avec les hormones, mes seins se développent très vite, comme ceux d'une adolescente. Et bientôt j'arrive à un bon 95C. J'en suis fier. Ouais, j'en suis fier. Et comme ça se voit, il faut bien que je m'explique auprès des cadres de mon usine. En fait, génétiquement, je suis une femme, hein, depuis que je suis né. Et donc maintenant, je dois prendre un médicament, et bon, la conséquence, c'est que ben, ça développe mes seins, j'y peux rien. Je ne leur mens pas, mais je ne leur dis pas tout. Je vais voir une orthophoniste aussi, une Française, pour changer de voix. Alors, je vous explique. Ce qui fait la voix, hein, c'est la vibration des cordes vocales. Une voix d'homme grave, donc votre voix aujourd'hui, vibre entre 80 et 160 Hertz, c'est-à-dire entre 80 et 160 fois par seconde. Alors qu'une voix de femme vibre entre 180 et 250 Hertz, c'est-à-dire entre 180 fois et 250 fois par seconde. Et donc tout est question de respiration. Hein ? On va travailler la respiration qui fait vibrer vos cordes. Prenez une inspiration. Vous voyez ? Au téléphone, Jeannette me dit.
Tu sais quoi que tu fasses, quoi que tu décides, je te suivrai.
Un jour, elle vient passer des vacances à Hanoï. Et on reçoit des amis de France, des gens très ouverts. Alors pour la première fois devant eux, je m'habille en femme. Et ce sont eux qui me disent.
Mais tu peux pas continuer à vivre comme ça, enfin. Faut que tu fasses quelque chose.
Deuxième déclic. Je vais me faire opérer. Il faut que je le fasse. Je vais le faire. Chaque année, 50 000 hommes et femmes du monde entier se font opérer en Thaïlande. Du Vietnam, c'est la porte à côté. Alors je passe tout mon temps libre à chercher le chirurgien de Bangkok, le meilleur. Ça coûte cher. Au début, je me dis, je vais attendre ma retraite dans 5 ans. Comment expliquer ça aux gens de l'usine ? Et puis un jour, j'en parle à un client, Gordon.
Félicitations ! Mais bien sûr que tu dois le faire.
Et puis à un collègue français, il m'encourage aussi. Et puis à 3, 4, 5 personnes. Et puis un jour à mon big boss, Yoshi, un japonais.
Écoute, si tu fais en sorte que tout continue à fonctionner, je n'y vois absolument aucun problème.
Alors, pourquoi attendre 5 ans? Pourquoi attendre ma retraite? J'écris à mes parents. Je ne veux blesser personne. Je veux juste commencer à vivre ma vie et enfin être heureux. Ça n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est une nécessité vitale. C'est sûrement difficile pour vous d'imaginer que vous aurez 3 filles au lieu de 2, mais ça a toujours été le cas. Vous ne le saviez pas. Ne soyez pas triste. Soyez heureux que je puisse enfin commencer ma vie. Quand elle reçoit mon mail, maman m'appelle.
Oh ben c'est sûr que ça va être difficile au début. Je sais pas si je vais pouvoir t'appeler Céline. Mais pourquoi t'as rien dit pendant toutes ces années? Enfin, quoi qu'il en soit, t'es notre fils ou notre fille. Et jamais tu seras rejeté pour ce que tu es.
Avec Jeannette, je sens depuis quelque temps une incompréhension. On se retrouve pour quelques jours de vacances à Phuket, en Thaïlande.
Je comprends pas pourquoi tu veux aller si vite. T'avais dit dans 5 ans, ben, tu dois t'y tenir. Écoute, Jeannette, c'est lancé. J'ai rendez-vous en juin pour une réduction de la pomme d'Adam. Et puis j'ai prévu de me faire féminiser le visage aussi. Et surtout fin septembre, j'ai rendez-vous pour la vaginoplastie. Mais tu m'en as pas parlé de ça. Tu me dis rien. Pourquoi tu veux faire cette opération? Moi, je me suis marié avec un homme. C'est un homme que je veux garder. Je veux pas vivre avec une femme.
Le lendemain, je la ramène à l'aéroport. Je sais que c'est fini. C'est dur, hein, Je n'avais pas imaginé faire cette route sans elle. J'avais prévu de faire d'abord la pomme d'Adam et 3 mois plus tard le changement de sexe, ce qu'ils appellent la réassignation. Mais finalement, je veux tout faire d'un coup. Et je le dis au docteur Sutin que je rencontre à Bangkok le 1er juin 2017.
Bon, eh bien écoutez, d'accord. Le docteur Buring procédera à la réassignation et pendant ce temps-là, moi je ferai votre visage. Alors on va vous opérer après demain matin.
Et donc je vais voir le docteur Burin.
Alors vous devez savoir que la taille de votre pénis définit la profondeur de votre futur vagin. Alors voyons, 15 centimètres. Ben donc ça vous fera un vagin de 15 centimètres de profondeur. À samedi donc, n'est-ce pas? À samedi.
En France, ça prendrait des années. En Thaïlande, ça se règle en 2 jours. Mais ça coûte 24 000 dollars. C'est aujourd'hui. À 10 heures, je vais faire mon dernier pipi debout. Je suis calme.
On va y aller, Céline. Je vous mets le masque et vous comptez jusqu'à 10.
Quand je me réveille, la pendule de ma chambre affiche 18h30. Je suis rentré au bloc à 10h du matin. Et je ressens tout de suite un énorme pansement qui enserre ma tête. Et puis je soulève la couverture. Et je vois un autre pansement entre mes jambes.
Alors, Céline, comment vous sentez-vous? Tout s'est très bien passé? Bon, nous n'avons rencontré strictement aucun problème. Aucune complication. Il nous a fallu 3h30 pour la construction du nouveau vagin et 6h30 pour votre nouveau visage.
Et là, il m'enlève le gros pansement autour de la tête. Mon Dieu, j'ai l'air d'un alien, couplé avec un zombie. Deux jours plus tard, le docteur Burin vient m'enlever le pansement entre les jambes.
Voyons ça. Oh, mais tout va bien. Je vais vous enlever la gaze qui est à l'intérieur et puis la sonde urinaire. Ça cicatrise très bien. Vous voulez voir?
Tu m'étonnes. Bien sûr que je veux voir. Alors il met un miroir entre mes jambes. Objectivement, ça ne ressemble à rien. Et surtout pas à un vagin. Mais je me mets à pleurer. C'est un flot de bonheur. De la plénitude. Deux mois et demi après, je prends l'avion pour l'Europe. Je vais présenter Céline à ma famille. Mes parents étaient prêts. Ils n'ont eu aucune réaction particulière. On a passé une bonne soirée, au-delà de mes espérances. Le lendemain, je vais faire du shopping avec ma grande sœur. On va chez Sephora.
Bonjour, mesdames.
Ma sœur sursaute. Et on en rigole. Et puis vient le moment où il faut bien revoir Jeannette. On est toujours mariés. La discussion dégénère. Elle veut divorcer. Et le lendemain, une autre épreuve m'attend. J'ai rendez-vous avec Marie, notre fille, chez elle. J'ai mis un petit short en soie, un t-shirt en dentelle blanc.
Oh papa! Comme t'es belle!
Elle est souriante. Elle est contente de me voir. Et je la serre très fort dans mes bras. Voilà, Céline, j'ai choisi d'arrêter mon histoire là. la vôtre continue dans ce livre dont j'ai tiré cette histoire, du masculin au féminin, mon parcours singulier aux éditions Kawa. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez obtenu vos papiers de femme.
Oui, c'était une longue démarche à faire auprès des tribunaux. Ensuite, il y avait plein d'autres démarches à faire pour changer le numéro INSEE, pour changer le compte bancaire, les permis de conduire. Enfin, c'est toute une liste assez impressionnante.
Et changer les papiers que vous aviez au Vietnam. Ça, c'est autre chose. Parce que bon, la France est tolérante. Est-ce que le Vietnam l'est autant? Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues femmes au Vietnam.
Disons que encore aujourd'hui, c'est pas officialisé. Donc le changement de genre n'est pas encore.
C'est-à-dire sur le titre de séjour vietnamien, par exemple.
On peut pas changer.
Vous êtes toujours Christophe.
Oui, c'était toujours Christophe. Donc il a fallu passer par un avocat qui avait jamais eu à traiter ce genre de choses, évidemment. Et le Vietnam a pour la première fois accepté qu'il y ait un changement de genre du fait que j'avais des actions dans l'entreprise qui devaient être transférées de Christophe à Céline.
Eh oui.
Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis du coup, ça a déclenché peut-être quelque chose, puisqu'il y a un projet de loi pour 2020 pour autoriser le changement de genre au Vietnam.
Vous avez donné une interview, j'ai vu, à la télévision vietnamienne.
Oui, oui, quelques-uns après ça, oui, oui. C'était le début de cette envie de communiquer. Ça s'est tellement bien passé pour moi que j'avais vraiment besoin de donner, d'essayer d'aider les autres.
Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de tolérance en Asie qu'ici en Europe? J'ai parlé de la Thaïlande tout à l'heure. Bon, en Thaïlande, il y a ce qu'on appelle les Lady Boy, qui sont des personnalités à la fois garçons et filles, très comme ça, très troubles. Est-ce qu'au Vietnam aussi, on a, naturellement, j'ai envie de dire, enlevons l'aspect politique, mais naturellement, plus de compréhension qu'en Europe, à votre avis?
Mais disons que la tolérance, quelle qu'elle soit, envers toutes les différences et les populations, est plus grande, effectivement, au Vietnam qu'elle l'est en France. Et je pense pas que ma transition se serait aussi bien passée si je l'avais fait en France.
Mmh. Là-bas aussi, les corps ne sont pas aussi, les différences corporelles ne sont pas aussi marquées. C'est-à-dire, au fond, l'homme n'est pas massif et velu comme un Européen. Et le fait de passer femme est probablement plus facile.
Ah, physiquement, c'est beaucoup plus facile pour les Asiatiques. Mmh. Mais c'est plus difficile au niveau des opérations, parce qu'il leur faut des opérations bien plus complexes, parce que généralement, ils ont des pénis relativement courts, donc il faut rallonger avec des morceaux d'intestin.
Oui, c'est ça, on va chercher l'intestin, vous racontez ça. Le retour à votre usine, ça quand même, c'est vous avez vécu là une expérience absolument unique, vous êtes quand même la bosse d'une usine, j'ai pas dit vous fabriquez des gilets de sauvetage, etc., c'est des canaux pneumatiques et des kayaks et des choses comme ça, c'est du caoutchouc, quoi, du plastique, hein. Donc il y a des ouvriers, ça fabrique, c'est de l'industrie. Et un jour, ils vous ont vu arriver en femme.
Ils m'ont vu arriver, c'était le jour que je craignais après mes opérations, je me disais comment je vais faire, et j'étais vraiment pas fier quand je suis arrivé à la porte de l'usine, et en fait je suis arrivé, il y avait personne dans les bureaux, enfin j'avais un mot de bienvenue, mais après j'ai vu personne, et en fait ils étaient tous dans mon bureau, et ils m'ont fait une fête et une ovation, mais... Ah ouais, là j'en pleurais parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, ce que je craignais le plus est devenu un moment absolument mémorable.
Et en devenant une femme, vous avez perdu beaucoup d'autorité.
Non, non, justement, j'en ai pas perdu. Au contraire, j'en ai beaucoup gagné. J'ai gagné beaucoup de respect de la part de mes collègues, beaucoup d'admiration. Et non, j'ai pas du tout perdu quelque autorité que ce soit.
Vous resterez en Asie après la retraite? Ou vous reviendrez en Europe? Est-ce que c'est pas plus facile de rester là-bas?
Bah disons que quand on est piqué, quand on a le virus de l'Asie, c'est un peu difficile de revenir, quoi. Mais j'imaginais prendre une retraite en Thaïlande pour pouvoir être à l'abri, je veux dire, de toutes les difficultés que j'envisageais après cette transition. Et en fait, il s'avère que j'ai pas la moindre difficulté.
Tout même en France. Même là, en par France. Exemple, vous êtes revenu pour les fêtes de Noël. Vous êtes vraiment une femme, là, quand on vous regarde, il n'y a pas de problème.
Non, j'ai jamais eu le moindre problème. Jamais.
Donc ça vous encourage peut-être à revenir en Europe?
Bien sûr, non, je m'y sens tout à fait à l'aise. Mais aujourd'hui, j'aime mon travail, j'aime travailler au Vietnam, mes collègues. Donc c'est vraiment quelque chose que je continuerai à faire jusqu'à ma retraite, je pense.
Alors, ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous avez assez vite, quand je dis assez vite, c'est 3 mois après, débuté une sexualité, une vraie sexualité de femme. Enfin, il y a une première expérience avec une femme, qui est une sexualité, au fond, homosexuelle, en vérité. Ça ne vous convient pas ?
Non, ça ne me convenait pas du tout, parce que je me retrouvais dans le schéma précédent.
Comme avec Jeannette.
Comme avec Jeannette, voilà, en tant qu'homme.
C'était une Vietnamienne.
C'était une Vietnamienne. Et le problème, c'est que j'ai jamais eu d'attirance pour les hommes. Généralement, quand on change de genre, on change pas d'orientation sexuelle. Mmh. Mais bon, avec les femmes, je voyais que ça n'allait pas. Comme je me suis rendu compte que ce nouveau sexe était fonctionnel, c'est-à-dire qu'il pouvait procurer du plaisir.
Oui, parce que bon, il faut expliquer ça, c'est-à-dire que pour lui garder son élasticité, il faut en permanence le stimuler, c'est-à-dire vous devez aller le dilater. Et en le dilatant, vous avez découvert que vous y preniez du plaisir.
Voilà, en fait, le chirurgien reconstitue un clitoris et qui est...
Mais qui est, pardon, excusez-moi, on va parler un peu technique, mais vous en parlez tellement librement que je me sens autorisé. C'est le gland qui devient clitoris ?
C'est une toute petite partie du gland qui devient clitoris et avec les terminaisons nerveuses, ouais. Qui est fixée en haut des lèvres, comme chez les femmes, on va dire, biologiques, et qui, dans... assez souvent, on va dire dans 70% des cas, est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il procure des orgasmes. Donc c'est quelque chose en plus
qui... Et donc
qui est...
pendant ces dilatations, vous avez obtenu un orgasme.
Voilà, c'était ma grande surprise, alors que je ne l'attendais pas du tout. Moi, je voulais juste avoir ce sexe pour vivre en accord avec mon genre, pas du tout. J'envisageais plus du tout de sexualité après mes opérations.
Oui, vous vous étiez dit, c'est fichu, quoi.
Ouais, mais ouais. Ça ne me dérangeait pas. Moi, je voulais juste pouvoir être une femme à temps plein, on va dire.
Et cet orgasme, il est différent de l'orgasme masculin ?
Ah, il est différent, oui, il est très différent. Déjà par le contexte et l'environnement, déjà de me sentir femme, mais c'est l'équivalent d'une puissance 10 par rapport à ce que je connaissais avant.
Ah!
Ah ouais, c'est assez faramineux.
Vous voulez dire qu'on passe à côté d'un truc, les hommes?
Ah, et comment, ouais.
Et donc, vous y avez pris goût. Et alors, vous avez fait passer une petite annonce.
Voilà, j'ai passé une petite annonce et j'ai rencontré un homme, un Français. Je lui ai expliqué ma situation. Puis ça lui a pas posé de problème. Et là, c'était faramineux, quoi. Donc, je m'y attendais pas du tout. J'ai renouvelé l'expérience 2 fois, 3 fois. Je dis, oh, c'était quand même bien. Jusqu'à ce que ça devienne, j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment bien. Et où c'est devenu, on va dire, une sexualité normale, on va dire. J'ai de l'attirance maintenant pour les hommes. Je me sens bien, alors que j'imaginais pas un seul instant que je pourrais toucher un homme avant.
C'est peut-être le moment de parler de Jeannette, parce que on sent évidemment que c'est la grande blessure de cette histoire. C'est que vous aviez construit cette vie pour faire ce chemin ensemble, et que à un moment, elle n'a pas pu aller au bout. Ça n'est pas la première histoire changement transgenre que je raconte ici, et à chaque fois, le partenaire finit par lâcher à un moment, c'est-à-dire vous lui en voulez, dans le bouquin on sent que vous lui en voulez un peu, mais peut-être que depuis que vous l'avez écrit, il s'est encore écoulé du temps, vous lui en voulez moins. C'est un parcours extrêmement difficile à faire pour elle aussi.
Ah, évidemment c'est difficile, mais disons que moi je lui ai jamais rien caché. Pendant 20 ans, elle a vécu avec une femme.
Oui, elle mais elle aimait ça, c'est ce que vous dites, en fait elle était lesbienne.
Voilà, plus ou
moins. Plus ou moins.
Plus ou moins.
Ouais.
Mais c'était quelque chose qu'on vivait dans l'intimité, c'est-à-dire que personne n'était au courant. Et à partir du moment où ça allait devenir public, c'était quelque chose qui devenait difficile à supporter pour elle. Et moi, je l'ai vécu comme une trahison, parce que c'était très difficile d'être à l'hôpital.
Parce que c'est pile au moment où vous vous faites opérer.
Voilà, exactement, juste au moment où je me fais opérer. Et donc, on a un tel bouleversement hormonal dans tout le corps, qu'on est dans un état émotionnel...
très fort. Hein.
Très fort, et c'est très difficile. Donc, c'était un moment difficile, c'est tout ce qui était post-opératoire. Mais depuis, je veux dire que c'était un mal pour un bien, parce que je suis épanoui, je suis libre, je suis...
Vous l'avez revue ?
Non, on se voit plus, elle veut plus me voir.
C'est marrant, juste... elle a une sorte d'immense, d'énorme tolérance.
Exactement.
Et puis tout d'un coup plus.
J'ai eu énormément de chance de la voir, parce que pendant 20 ans, elle m'a accepté comme j'étais.
Ouais.
Donc c'est déjà énorme. Mais après, c'était trop difficile pour elle, quoi.
Ouais, on dit ça, voilà. En vérité, elle n'est pas responsable de tout ça.
Absolument pas.
Elle a déjà fait un sacré chemin.
Évidemment. Non, mais aujourd'hui, je lui en veux pas du tout.
Alors, il y a un passage qui est à la fois assez fascinant et bon, qui est pas facile à manipuler. C'est donc ce moment où, à l'issue d'une analyse génétique pour des raisons de santé, vous découvrez que vous avez un chromosome féminin. Un chromosome XX. Et là, à un moment donné, on peut se dire, oh là là, où est-ce qu'elle nous entraîne? Parce que nous, ce qu'on sait ou qu'on croit savoir, c'est que la transsexualité n'est pas une affaire de génétique, que c'est une affaire de ressenti. Et que donc, on se dit, et ce n'est pas en train de nous dire, que les personnes transgenres sont génétiquement des femmes, systématiquement. C'est pas le cas, j'ai bien compris.
C'est pas le cas, effectivement, oui. Donc c'est vraiment, ça arrive une fois tous les 20 ou 30 000 fois. C'est ce qu'on appelle les personnes intersexes.
Oui.
Le souci, c'est que donc on m'a révélé que j'étais XX sur le chromosome 23 et je devais être stérile.
Logiquement, vous auriez dû être stérile.
Voilà. Et je l'étais pas. Et du coup, je n'ai jamais cherché à vérifier si j'étais vraiment XX ou pas.
Ouais.
Parce que.
En tout cas, ce qu'on sait aussi, vous le racontez, j'ai pas eu le temps de le dire ça, mais c'est que les gens qui ont un chromosome XX, les hommes qui ont un chromosome XX ne peuvent avoir que des filles. Et vous avez eu?
Bien sûr, oui. Comme il n'y a pas de chromosome Y, voilà.
Mais est-ce que sur le moment, vous vous dites en fait, ce caryotype, puisque c'est ça l'examen génétique qu'on a pratiqué, ce caryotype vient de révéler la vérité, que je suis une femme, et donc c'est normal que je ressente l'envie d'être une femme depuis toute petite. Vous vous dites ça?
Oui, mais ça m'a rassuré. J'ai dit, mais voilà, maintenant, depuis mon enfance, je combattais ça. J'ai dit, maintenant, je sais pourquoi. Je sais pourquoi tout ça m'arrive. Et
mais ça n'a pas de lien, en vérité.
Ça n'a pas de lien, parce que ça n'a rien changé, quoi. À partir du moment, le lendemain de cette annonce, bah, j'étais toujours un homme.
Oui.
Ça n'a rien changé. Mmh. Et c'est pas pour autant que
j'avais... Vous auriez pu avoir ce chromosome XX et néanmoins n'avoir aucune envie de devenir femme. Il n'y a pas de rapport entre les deux.
Il n'y a pas de rapport. Il y a beaucoup d'hommes, si jamais ils ne cherchent pas à avoir d'enfants, qui peuvent être XX, qu'ils ne le savent pas.
Oui. On fait pas toujours le caryotype caryotype à l'autre bout. Pendant combien d'années est-ce que c'est votre petit moteur, cette identité génétique féminine?
Alors, ça, c'était surtout au début, on va dire, dans les 5, entre 20 et 25 ans, que ça a vraiment trotté, essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Mais il faut bien savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, il y avait
rien. Oui, donc on n'avait pas la réponse à la question.
Non. Donc
on fantasme, quoi.
Voilà, on fantasme. Et puis, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi. Moi, j'étais convaincu d'être la seule personne sur Terre, quoi.
Vous fréquentez, à ce moment-là, d'autres personnes qui sont dans ce monde du transgenre, de gens qui sont en transition, qui vont bouger. Vous racontez dans le livre qu'il y a une femme qui a beaucoup compté, un documentaire que vous avez vu à la télévision.
Oui, mais ça, c'était il y a à peine 3 ans. Hein, Olivia Chaumont, qui était un exemple pour moi. On avait le même âge, on a fait à peu près le même parcours. Et je l'ai trouvée extraordinaire. Et puis, ça a été un moteur. Et elle m'a permis... de supprimer beaucoup de verrous. Et maintenant, je me dis que j'aimerais donner la même chose qu'elle m'a donné et de témoigner pour que ça puisse aider d'autres personnes comme elle m'a aidé moi.
Vous connaissez l'histoire du champion olympique Wilfried Forg?
Bien sûr.
Devenu Sandra Forg?
Ouais.
Je l'ai raconté ici.
D'accord.
Voilà. Donc si vous voulez, vous pourrez l'écouter. C'est un autre exemple de transition. Votre fille, c'est assez rigolo. La première fois que vous la voyez, elle dit « t'es belle, papa ». Donc ça, c'est la parfaite synthèse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, elle reconnaît votre féminité en disant « t'es belle ». Mais papa reste papa. Ça, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je lui ai expliqué dès le départ que, voilà, moi je suis ton papa, je vais toujours rester ton papa, même si je deviens une fille.
Donc elle vous appelle toujours papa?
Elle m'appelle papa. Donc, mais dans l'intimité, elle m'appelle papa, mais on va au restaurant, elle dit « je t'appelle Céline, hein, je fais pas une attention ».
Ouais.
Donc, et puis, j'ai retrouvé des relations avec sa mère, Isabelle, tout à fait bien. Enfin, on sort toutes les trois ensemble, on va au resto toutes les trois. Et alors, ma fille, évidemment, elle est contente. Et puis, et c'est marrant de se retrouver toutes les trois filles.
ouais. Quelle histoire passionnante à lire aux éditions Kawa de Céline Audebeau, du masculin au féminin, mon parcours singulier. Merci beaucoup d'avoir accepté de prêter ma voix à votre histoire.
Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.